mes parents en maison de retraite publique. Je tiens à vous dire combien votre émission de ce 16 novembre a bien traduit, à travers toutes ces interventions, le vécu de toutes les petites gens, tant les pensionnaires, comme on dit, que leur entourage. Le personnel, on le sent bien, fait ce qu'il peut, mais le règlement venu d'en haut est tellement inhumain. Voilà nos aînés qui ont toujours su assurer leurs arrières, qui ne voulaient pas être à la charge de leurs enfants, qui ont eu une vie privée. Les voilà plongés dans un collectivisme tuant au sens propre et figuré. Vite, vite, essayez de nous faire une émission sur une maison de retraite respectueuse de l'homme. Merci, il doit bien en exister. Bonsoir.
Salut Daniel, depuis le temps que je suis tes émissions, cette fois-là c'est mon tour. Je suis agent hospitalier, en contrat à venir, dans un EHPAD de l'Ariège. Et demain, je vais être mangé aux petits oignons. Le DRH va me signifier mon licenciement. Pour une faute grave, imaginez, puisque je veux pas signer ma propre éviction à l'amiable. Des collègues titulaires, des vachards, des caractériels, se sont ligués pour m'évincer. Trop d'amour tue l'amour. Ça faisait près d'un an que je m'évertuais à soulager autant que possible les maux des résidents de mon étage. De chansons en écoute, j'apprenais des tas de choses. Seulement voilà. Il y a les méchants indéboulonnables de la fonction qui m'ont regardé de travers. Tu comprends? Faut pas trop en faire. Alors demain, j'irai grossir les statistiques des as et dic. Et les petits vieux n'entendront plus chanter le petit vin blanc dans les couloirs de la mort. Et puis tu sais, vaut peut-être mieux qu'ils partent très vite, sans joie et sans couleur. Être insensible et méchant, c'est fait pour ne pas les retenir trop longtemps. À quand les maisons de retraite alternatives, où l'on mettrait enfin, après une vie de chagrin, nos petits vieux au centre de nos préoccupations? De l'intérieur, tout le système, les cadres et le tout-team, c'est du bidon. Courage! Fillon, merci de passer mon message. Je te tiendrai au courant, à savoir à quelle sauce j'ai été mangé. Ciao, ciao. Un ASH tout plein d'amour.
Bonjour, je m'appelle Arlette. Je voulais vous dire que ce sujet me paraît pouvoir être rattaché, c'est mon impression personnelle, à un appel récent, un jugement récent qui condamne l'État en appel à propos de conditions indignes qui étaient réservées aux prisonniers à la prison de Rouen. Le jugement date du 12 novembre. Et je trouve qu'il y a une grande similitude entre les situations dégradantes, le silence qui accompagne le tout et qui est réservé parfois aux personnes âgées, surtout quand elles sont très dépendantes, et la situation que vivent les prisonniers.
Oui, Michel Guilbert, directeur d'une maison de retraite en Saône-et-Loire. Bonjour Daniel, j'apprécie régulièrement tes émissions. Et j'ai écouté celle d'aujourd'hui avec d'autant plus d'attention que je dirige une maison de retraite de 84 lits à la chapelle de Guinchet en Saône-et-Loire depuis déjà 8 ans. Je trouve quand même que c'est facile de faire des généralités de cas particuliers et de faire une amalgame sur toutes les maisons de retraite. Tu partirais en guerre contre des maisons de retraite qui se font du fric de manière éhontée sur des personnes âgées. Ok, moi je suis engagé dans ce combat avec toi. Mais crois-moi, c'est loin d'être le cas des maisons de retraite à caractère public ou associatif qui n'ont pas d'actionnaires à rétribuer. Quant à l'obligation de clandestinité pour interviewer dans une maison de retraite, tu peux venir quand tu veux sans prévenir pour interviewer les résidents et les familles et les personnels de notre maison de retraite. Tu seras le bienvenu. Ce que tu découvriras, moi, m'intéresse. Je pourrais aussi te faire une liste de nos manquements ou de nos limites. Allez, j'attends la suite de tes émissions et le bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. À très bientôt Daniel, au revoir.
Ancien d'un centre hospitalier de la baie de Morlaix, je veux apporter mon témoignage suite à l'émission d'hier concernant les personnes âgées institutionnalisées. La maltraitance, souvent décriée par nos soi-disant responsables, mais rarement combattue efficacement, est hélas bien réelle. J'ai été souvent réprimandé et blâmé pour avoir pris le temps de laver les fesses souillées de sel et d'urine d'une personne âgée avant de remettre une nouvelle protection. Il faut savoir que dans certains établissements, chaque vieux a le droit à un certain nombre de couches par jour, pas plus, même si besoin. Le temps imparti aux soignants pour laver, habiller, installer, au fauteuil, réfection de lit, etc. est de 20 minutes, quel que soit l'état de la personne. Pour ceux qui ne mangent pas seuls, on est prié de les gaver comme des oies. Dans ce centre dit hospitalier, qui a perdu toute étymologie de ce mot, certains soignants ont donné des croquettes pour animaux à des patients âgés. D'autres traquent nerveusement en s'occupant des anciens car on en demande toujours plus, avec toujours moins de moyens. Ces soignants aux croquettes ont été mutés dans notre service et c'est tout. Le DRH et la direction a tout fait pour étouffer l'affaire. Et le DRH, encore lui, fait pression de façon ignoble sur les soignants qui voudraient alerter l'opinion quant à ces pratiques. Bien sûr, la DAS 29 et la DRAS ont été prévenus, mais ils n'ont absolument pas bougé.
Merci pour ces messages, chers AMG. On en pourrait en passer comme ça pendant une heure. Vous avez été très nombreux à nous adresser ces messages suite à l'émission d'hier sur les maisons de retraite. Je suis essoufflé parce que j'ai couru dans l'escalier, figurez-vous, jusqu'à ce micro. Et effectivement, merci à cet auditeur qui nous dit qu'il est directeur d'une maison de retraite et qu'on peut venir quand on veut. On ne doute pas, bien sûr, de la probité des gens et ni de la du fait qu'il existe probablement quelques maisons de retraite dans lesquelles les gens sont traités avec des égards et avec tout ce qu'il faut. Mais enfin, le panorama général est quand même plutôt désolant. On se demandait tout à l'heure s'il fallait appeler ça un gérontocide ou un sénilicide, mais c'est quelque chose comme ça qui se produit dans notre beau pays. C'est des sujets qui reviennent fréquemment dans les médias, télé, radio, etc. Mais les modifications, les changements sont extrêmement ténus. Et par contre, les bénéfices augmentent quand les anciens que nous rencontrons dans ces établissements disent « je suis plus bon à rien », ben ils se trompent beaucoup parce qu'ils rapportent énormément d'argent. On va en parler aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BASSU, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Jean-Louis de Bayonne, je suis infirmier dans un hôpital et je viens d'écouter votre émission sur les personnes âgées et la façon dont on s'en occupe et je suis content qu'enfin, vous en aviez déjà parlé, mais c'est hyper important quand on voit le manque de respect dont on fait part pour ces anciens qui sont notre mémoire et qu'on ne respecte plus depuis longtemps. Le seul côté intéressant pour ces gens-là, de ces gens-là, en fait, c'est l'argent qu'ils rapportent aux collectivités qui les prennent en charge, c'est minable, quoi. Donc voilà, je suis super content d'avoir écouté votre émission. On oublie que ces gens-là, ils ont traversé des périodes de vie plus difficiles ou autant difficiles que nous. Certains ont des histoires riches et qui nous apprennent plein de trucs. Et heureusement que le cerveau humain, eh bien, il se met un peu en rupture, que le fusil le lâche, parce que vu ce qu'on leur propose comme vie dans les institutions qui existent en France actuellement, le cerveau, il fait son boulot, il coupe, et au bout d'un moment, on devient une plante verte comme toutes celles qui peuplent déjà ces maisons de retraite.
Bonjour. Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge se tiendra ce mercredi 18 novembre. Pour ceux qui veulent découvrir ou s'engager plus encore, nous y parlerons des réseaux d'éducation sans frontières, sous forme de présentation, d'échanges, de débats. Ce Café Repère a lieu à 20h30 au restaurant Le Jasmin, parking de la gare, qui donne dans la rue Joliot-Curie. Et quand on dit restaurant, c'est qu'on peut y boire et y manger, en plus de discuter. Merci.
Oui, bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe et tous les auditeurs de là-bas. Merci de ce regard sur cette population ancienne. Moi j'ai 37 ans, Daniel, tu vois, ma grand-mère en a 95. La vie est dure pour ces gens de 95 ans. Dure quand ils veulent rester chez eux. Bon, nous on a de la chance. Elle est plutôt autonome encore, ma grand-mère. J'ai passé là les vacances avec mes enfants chez elle à Paris. Mais bon, quand je vois un petit peu le poids administratif qui est une gestion pour elle, elle baisse les bras là en ce moment. Elle baisse les bras, alors qu'elle a toujours refusé d'envisager un placement en institution ou autre. Là, elle y pense. Elle y pense parce que la société est dure avec ces personnes âgées. Ce côté marketing que nous, même à 40 ans ou 60 ans, on a un peu de mal à entendre, eux, ils sont agressés par ça. Pour le téléphone, pour le gaz, pour les problèmes médicaux et autres. Et juste un petit souci qu'elle a eu là dernièrement de paiement de médecin. Donc on l'aide un petit peu pour bien sûr gérer tout ça. J'ai juste pris le temps d'appeler sa mutuelle de santé en demandant, voilà, elle est aujourd'hui malheureusement tiers payant, donc elle paye le tiers du prix des médicaments. Tout ce qui est hospitalisation est pris en charge à 100% par sa mutuelle. Donc j'appelle en disant, voilà, combien je dois mettre tous les mois pour qu'enfin ma grand-mère n'ait pas d'argent à sortir pour se soigner correctement. Parce qu'aujourd'hui, elle hésite. Avec 1000 euros par mois, un loyer parisien, je peux te dire qu'elle hésite de se faire soigner. Eh ben non, on m'a répondu, tu sais quoi, le dossier de votre grand-mère est déficitaire, rappelez-nous dans 6 mois. Donc je leur ai signalé à cette mutuelle en question. Mais vous attendez quoi dans 6 mois, qu'elle soit plus là? Ah ben non. Mais vous voyez, monsieur, c'est pas moi qui fais les contrats, me dit ce petit employé qui malheureusement lui-même n'en est pour rien et j'en ai bien conscience. Mais c'est le système que j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre que ma grand-mère ait travaillé toute sa vie, qui est à la retraite maintenant depuis longtemps, c'est vrai, mais elle a 95 ans et elle a le droit d'être soignée correctement.
Oui, bonjour. Donc le repère de là-bas si j'y suis de Gérard May redémarre. Donc ce sera mercredi 18 novembre à 20h. Alors on change de lieu exceptionnellement, ce sera au foyer bord de la MCL de Gérard May. Et on a plusieurs invités. Le thème sera les enfants afghans de la jungle de Calais. On a un copain qui, Karim, qui revient de, qui a été plusieurs fois à Calais pour en solidarité avec les Afghans. Il y aura des militants de la LDH, d'Amnesty International et d'autres organisations pour discuter des problèmes des sans-papiers. Voilà. Bonjour à tous et bonne journée. Au revoir.
C'est un gâteau, ça?
Oui, c'est du cake, maman.
Ah ben, je veux bien, oui.
Que quand on rentre, et je suis à peu près sûre que c'est ce que maman a eu comme idée, on a l'impression que c'est là, c'est fini. Là, c'est le mouroir. La vie, elle s'arrête là. Elle va s'arrêter parce que vous êtes en maison de retraite et vous n'en sortirez pas. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'espère ne jamais y venir. Jamais.
Oui, oui, on peut pas.
Vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner?
Non.
C'est comme ça, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut que... Et à l'heure actuelle, les personnes âgées, c'est du bétail, et encore. Je veux dire, je crois que maintenant, un animal, s'il souffre, on le pique, hein. On ne laisse pas comme ça.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Nous avons décidé de ne plus lire vos livres, mais les rides de nos ancêtres.
Moi, ça fait 10 ans que je suis là.
10 ans?
10 ans. 10, pas 6, 10. 10 ans. Mais je vais vous dire que ça a beaucoup changé. Parce que quand je suis arrivée il y a 10 ans, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas la même ambiance. Moi, ici, quand je suis arrivée, il n'y avait que 3 fauteuils. Et pas de malades mentaux. Et qu'aujourd'hui, il y en a la moitié. La moitié de fauteuils, malheureusement. Et les malades mentaux, il y en a aussi beaucoup. Surtout ici, il y en a une qui crie jour et nuit. ça. Terrible. Il y en a un qui disent rien, qui perdent la tête, qui essayent de sortir, pas aller dans la rue.
Et vous avez quel âge ?
89 ans.
Là, dans le couloir, vous êtes toute seule ?
Ah oui, je suis toute seule. Pour le moment. Oh, puis vous savez, dans le couloir. Si, j'ai une grande amie, là. Une grande amie.
Vous êtes toute pomponnée, vous avez mis du rouge à lèvres.
Mais, bah, ben, je suis... Mais non, je suis pas peignée. Tiens, là, voilà ma copine.
Trompez-vous pas, hein.
Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Simone Guillard.
Vous savez longtemps que vous êtes ici ?
Oui, depuis le 31 octobre 1999. Oui, ça va mettre 10 ans à la fin du mois.
Ben, on y est, hein.
Oh, ça va plus, hein.
Vous vous plaisez ici?
Oui. Bah, oui. Oui, bon, bah oui, on va dire oui. Je fais un petit peu des travaux de couture, puis la dame me prête le journal. Alors, puis quand il y a des animations en bas, on descend.
Ah, bah oui.
Ah, oui. Voilà, là, comment qu'on passe notre temps. Alors, avant, ben, avec madame, on sortait, mais moi, depuis, ça fait 3 ans que j'ai du fémur cassé, et puis ça s'est mal arrangé, ils m'ont mis une plaque d'un bout à l'autre. Alors, bon, alors.
Et vous faisiez quoi dans votre vie, quand vous étiez avant?
Paysanne, cultivatrice.
Oui.
Oui.
Vous aussi?
J'y suis née, j'y retournerai. J'y suis née, j'ai tout le temps été, quoi.
Beaucoup de vignes.
Bah oui, parce moi que j'avais des vignes, mais beaucoup plus d'animaux. C'était principalement les animaux.
Ah ben non, principalement les vignes.
Aussi, la campagne nous manque, quoi. Mais on s'est résolu, on sait qu'on n'a pas autre chose. C'est vrai, on sait qu'on n'a pas. Que voulez-vous que je retourne chez nous? Bon, ben d'abord, ma maison est vendue pour payer ici, parce que j'ai pas de quoi.
Vous vous rendez compte,
en 10 ans de temps, la somme que j'ai versée ici, faites un petit peu le calcul.
Est-ce que c'est combien un mois ici?
C'est 1 600 € par mois. Et il faut 3 mois et demi de retraite pour payer un mois ici. Alors, je n'ai plus, je paye un peu, j'ai une aide, et c'est mes petits-enfants, parce que ma fille a une longue maladie, cancer et tout ce qui s'ensuit, et c'est mes petits-enfants qui payent le reste pour moi. J'ai mangé ce que j'avais de placé, j'ai mangé ce que j'avais de liquide, j'ai mangé mon bien et j'ai mangé ma maison. C'est pas toujours hier. Aujourd'hui, j'en suis rendu, c'est mes petits-enfants qui font le reste, qui font la pointe. On ne fait pas cadeau ici, hein. Ben non, puis il faut payer les assurances, il faut payer ni plus ni moins encore en plus, hein, c'est qu'on ne fait pas cadeau les assurances. Hein.
Assurances en plus?
Ben, on paye les assurances, on ne fait pas. Les mutuelles, disons qu'ils les payent, c'est pour nos voisins, vous savez. Vous savez, dites, des 2 ou 3 mois à l'hôpital et des opérations comme j'en ai subi, moi j'en suis à ma 10e opération, mais qui n'ont encore pu. Personne n'aurait, si j'avais pas été une assurance, personne ne pourrait faire ça, voyons. Vous vous rendez compte, hein?
Millions de Français ont plus de 80 ans, plus de 600 000 personnes âgées seraient victimes de maltraitance. Plus de 300 établissements devraient être fermés, mais des milliers d'autres ne permettent pas d'offrir une fin de vie digne et heureuse. 1 million de plus de 85 ans et seulement 600 000 places dans les institutions. Alors, on comprend que les maisons de retraite peuvent tout se permettre. On en parle de temps en temps, c'est pas facile de faire une
un reportage dans une maison de retraite. Vous avez vu, en télé, il faut souvent avoir recours à des caméras cachées, il faut s'infiltrer, il faut, comme si la vie de nos anciens devait être cachée, mystérieuse, comme celle des détenus. Le business du Kakoshim est devenu au fil des ans presque aussi juteux que le casino de Monte Carlo. Une fois les investissements immobiliers amortis, le taux de rentabilité dépasse facilement les 25%. Et c'est quand même pas mal. 25% pour les actionnaires. Une demi-douzaine de grands groupes écument désormais le marché et alignent des bénéfices hauts comme ça. Ceux de Medidep, 12,4 millions d'euros, ont été multipliés par 10 depuis 1998 et des cours de bourse sont dopés à la courtisane. Les actions d'Orpea, la société de Jean-Claude Marian, n'ont-elles pas doublé en moins d'un an? Pas étonnant que les investisseurs se précipitent dans le créneau comme des oursons sur un pot de miel. Le fonds de pension britannique Bridgepoint n'a, par exemple, pas hésité à flamber 330 millions d'euros en 2003 pour mettre la main sur Medica France, 5100 lits. Et pas un matin ne se lève sans qu'un particulier monte un dossier de construction de résidence auprès de sa préfecture avec le fol espoir de faire la culbute. On appelle tout cela l'or gris, le business des mouroirs. C'est très très rentable. Alors, amis âgés qui nous écoutez, ne dites plus « je suis inutile, on n'est plus bon à rien ». Non, 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 non. Dans ce monde tel qu'il est et tel qu'il va, vous êtes bon à ça. 25%, 25% de rendement, de rentabilité. Vous n'êtes pas fier de ça, non? Bon, alors restez avec nous jusqu'à 16h. Là-bas, j'y suis.
Il faut que j'explique rapidement qu'un hospice, si des gens n'y sont jamais allés, c'est un endroit où l'on peut mettre ses petits vieux quand on n'en a plus besoin. Alors, on les met là, on s'occupe bien d'eux, et on peut aller les voir quand on veut. Ça leur fait plaisir le dimanche. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors les dimanches passent comme ça, on dit on ira, on ira, et puis un jour, ce n'est plus la peine d'y aller du tout. Alors, bon, bref, nous sommes allés, nous, commandés par le Seigneur, visiter cet hospice, et nous sommes tombés donc sur les petits vieux qui étaient, juste après le déjeuner, assis tous ensemble, un peu comme vous, et qui eh bien, s'amusaient comme ils pouvaient, parce que personne ne venait les voir ce dimanche, comme d'habitude. Et ils s'amusaient,
ils faisaient ce qu'ils pouvaient,
au quadrille du troisième âge. Oui. Alors, nous avons observé, nous avons essayé d'apprendre cette danse et vous la proposons.
Très bien.
Alors, ça commençait par taper dans les mains,
taper dans les cuillères,
monter sur les bottins,
siffler par le derrière.
Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que l'on aime bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Dimanche après l'office, on va faire un tour à l'hospice. On y retrouve tous les petits vieux, c'est vrai qu'ils y sont tellement mieux. Ils préféraient voir leurs enfants, arrière-petits déjà bien grands, qui pensent à eux affectueusement, vissés devant l'école des fans. C'est la Lucie qui monte en premier, d'avant son sang que ça va chauffer. Elle fait deux tours et demi-vrille, le tout sans lâcher les béquilles. C'est un public de connaisseurs, car tout l'hospice reprend en cœur. Lucie va faire un gros succès, et elle entonne sans hésiter. Tape dans les mains, tape dans les cuillères, monte sur les bottins, siffle les pas derrière. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que l'on aime bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Toute la journée passée à danser, va bien falloir aller se coucher, mais toute la semaine on va penser aux petits détails qui font gagner. Dimanche c'est sûr, se dit Arthur.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Dimanche c'est sûr, je vais gagner, car je vais mieux coller monde entier.
Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen. Ah oui, amen, ah oui, amen. Voilà.
Si vous me mangez tout, je vous donne un peu de dessert.
Moi, je suis rentrée en 83 ici. J'avais 17 ans et demi. Quand je suis arrivée, moi, c'était des gens valides. Cette maison-là était faite pour des gens qu'on s'occupait pas. Juste leur donner à manger. Ils se lavaient tout seuls. Ils faisaient leur lit, ils faisaient leur poussière, ils faisaient leur chambre. Ils faisaient tout, quoi. Mais c'est vrai que les gens, maintenant, c'est des gens lit, fauteuil, fauteuil, lit. C'est pas adapté pour eux, quoi. Déjà, elle a 50 ans, la maison. On a quand même qu'une baignoire pour 33 résidents. Alors, faut attendre que la collègue ait fini pour que nous, on aille chacun notre tour, quoi. C'est ça, le problème. C'est pour ça que je dis que la maison est pas adaptée pour ces gens-là.
Alors, là, on coupe le pain qu'on va distribuer tout à l'heure pour les petits déjeuners.
Alors là, vous avez toute l'équipe du matin.
Vous, Claudine, Martine,
Annick,
Valérie.
Vous êtes agent aussi ?
Agent hospitalier, oui. Il y a plus d'agents que d'aides-soignantes ici.
Là, ce matin, vous avez qu'une aide-soignante, c'est-à-dire moi,
pour 66 personnes, en gros, quoi. Voilà.
Une infirmière 66, une aide-soignante pour 66 résidents. Et après, c'est des agents. Donc, 3 agents par étage. Ils ne sont pas formés pour, mais on n'a pas... Voilà, il faut la même chose.
Et on coupe les ongles, on fait tout ça.
Ouais. Normalement, dans la hiérarchie, c'est pas comme ça.
Nous, on devrait faire que du ménage, l'entretien des locaux, porter les plateaux. Normalement, une ASH, c'est ça. Mais en maison de retraite, on fait tout.
Et l'après-midi, ben, ça peut être que 2 agents aussi. Il n'y a pas forcément d'être soignant.
Là, on va se poser un tout petit peu pour en parler un petit peu.
Prendre un petit café.
Puis après, on va se mettre au travail.
Bonjour, mesdames.
Le Grand Mail à Amboise, c'est le nom de cette maison de retraite. Et l'équipe du matin, c'est Martine, qui est soignante, Claudine, agent de service hospitalier, Annick et Valérie également, qui commencent leur journée de boulot. Alors là, j'ai évoqué le secteur privé, depuis qu'il développe merveilleusement bien, vous avez vu les bénéfices qu'on peut tirer, les avantages extraordinaires sur l'or gris, sur les vieux. Faut rappeler qu'il est tout à fait courant dans ces établissements que une chambre soit autour de 5 à 6 000 euros par mois. Je parle du haut de gamme. Là, c'est pas le cas. Là où nous sommes, c'est un établissement public. On a critiqué le privé, mais il faut aller voir comment ça se passe également dans le public. Les conditions ne sont pas forcément fameuses.
Annick a pris aussi, je crois. Merci.
C'est un lieu de vie, ce n'est pas l'hôpital ici, c'est un lieu de vie.
Voilà. Mais pourtant, vous portez toutes des blouses blanches.
Oui, voilà, mais nous, on a demandé à avoir de la couleur, mais on n'en a pas. Les premières toilettes sont à 7 heures.
Et les résidents, s'ils n'ont pas envie de se réveiller...
Le problème, voilà. Il est là. Ah ouais, les gens, il faut les lever. Il n'y a pas le choix, malgré.
C'est pour ça que c'est un peu. Quand ils disent une maison, enfin un lieu de vie, excuse-moi, un lieu de vie, pas le droit de dormir le matin. Parce qu'il y en a à 7h30, 8h moins le quart, ils sont déjà dans la baignoire.
Hein. On fait notre maximum.
Ça nous fait mal au cœur, des fois, d'arriver dans la chambre, de les voir dormir, et puis de les. On les maltraite pas, mais on est obligé de tout doucement de leur dire oh, ben, ma foi, va falloir se lever, faire la toilette. Et ils sont encore dans le sommeil comme des enfants, c'est vrai. Et ça fait mal au cœur, quoi. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'il y a quand même ce stress. Hein. On a une cadence, là. En une heure, on en fait combien ? On fait 3 bonnes toilettes. Vous voyez, alors regardez le temps, ça fait quoi ? À peine un quart d'heure par personne.
On a notre cuvette et on fait la toilette. Nous, on fait ça. On n'a pas de douche dans les chambres. C'est ça le problème. Je pense qu'on aurait les douches dans les chambres, on perdrait moins de temps déjà, puis on aurait plus de temps avec la personne.
C'est le seul moment où on peut leur adresser un peu la parole, leur parler un peu. Alors on sort, on leur dit à tout à l'heure, en sachant très bien qu'on n'a pas le temps de revenir, à part pour aller les chercher pour le repas. Et s'ils sonnent, bien évidemment, mais s'ils sonnent pas, il y en a, on les revoit pas de la matinée. Hein.
Qu'est-ce qu'elle parle bien ?
Elle est en formation, hein.
Il y a quoi comme formation, par exemple ?
La manutention, la douleur, la maltraitance.
La bientraitance, c'est quoi?
Bah, toutes les violences qu'on peut faire physique ou morale.
Voilà. Les améliorer au quotidien.
Voilà. Ouais.
Mais c'est des choses qu'on peut pas mettre en pratique, comme normalement on devrait mettre, je sais pas, demander à une résidente ce qu'elle veut mettre le matin. Donc ce serait elle de choisir sa robe, de choisir, voilà. Nous, malheureusement, on n'a pas le temps. Hein. C'est souvent nous qui sortons les vêtements et hop, on vous habille. On n'a pas le choix. S'il faut les laisser chacun devant leur armoire, vous pensez bien qu'à 3 heures, il y en a encore la moitié qui sont tout nus. Sinon, c'est le brushing quand ils vont au bain. On n'a jamais le temps de... C'est un coup de brosse, hein, après la toilette, et puis allez, hop, on attend le bain 10 jours après. Ils n'ont aucun bain tous les 10 jours.
En principe, ça devrait être toutes les semaines, mais quelquefois, ils sont un mois sans les avoir.
Un mois?
Ah oui, ça peut arriver.
Information Alzheimer aussi. Ouais. Parce que nous avons beaucoup de résidents de plus en plus qui sont atteints de cette maladie et qui sont très difficiles à gérer quand c'est un service qui est mélangé. Nous avons un petit peu de tout. Démence, Alzheimer.
Mais le plan Alzheimer, pourtant, c'était un soignant pour un résident atteint.
Non, ça n'existe pas, ça. Non, ça, c'est dans les papiers, c'est dans.
C'est à la télé, ça.
Oh mon Dieu. France 2.
Hop. Allez, ma belle.
22 octobre 2007, les infiltrés.
Elle a gagné le pompon.
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a chié dans le lit. Elle m'a mis de la merde de partout. Elle a essayé de laver sa couche. Elle m'a bouché les chiottes.
Allez vous asseoir, bonjour, c'est la fessée.
Bon, oui, ben vous allez voir. Hein. On va pas être copains ce soir, hein, tous les deux. Oh,
salut.
T'as ouvert la fenêtre?
Asseyez-vous. Non, non. Si vous bougez, je vous attache.
Ça y est, on a jusqu'à demain matin.
Là, t'as vu, ça va pas aller, on va être obligé de sévir. Hein.
Franchement, fraîcheur matinale d'égout, hein, vous avez tout m'en passer. Hein.
Scène de maltraitance dans ce film qui a frappé beaucoup, tourné par les infiltrés. C'est fréquent, ce genre de choses est fréquent. C'est pas facile à tourner, à enregistrer. Il y a omerta sur ces situations et les personnels évidemment tiennent pas à perdre leur boulot. Et finalement, dans le corps médical, chez les médecins, chez les gériatres, etc., on n'est pas trop... on essaye de... Voilà. Rares sont ceux qui disent les choses comme elles sont, tout simplement, et ont le courage de leurs opinions qui sont basées sur ce qu'ils constatent tous les jours. En tous les cas, c'est le cas de Jacques Soubéran, qui est professeur, Jacques Soubéran, professeur de faculté de médecine de Marseille, où il enseigne la médecine interne et la gériatrie, et il est également praticien pour les personnes âgées à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Et il a participé à ce livre « On tue les vieux », qui est sorti il y a 2 ans, qui donnait de la situation, les conditions dans ces maisons et en général, la situation de nos aînés en France, un tableau assez alarmant, et qui s'est penché sur la maltraitance, la fameuse maltraitance. Qu'est-ce qu'on peut entendre par maltraitance?
Alors, par le terme de maltraitance des personnes âgées, on entend le fait que ces personnes âgées ne sont pas prises en charge correctement, comme elles le devraient. D'ailleurs, ceci a été reconnu puisque aux États-Unis, il existe maintenant un véritable délit qui s'appelle un délit de non-prise en charge correcte des personnes âgées. Alors, à partir de là, on peut distinguer plusieurs types de maltraitance. Il y en a la première, c'est ce qu'on appelle la macro-maltraitance. Celle-là, elle se définit très vite. C'est pas la peine d'être médecin pour faire le diagnostic. Il suffit de voir des personnes âgées qui ont subi des coups, des fractures, des contusions, des bleus, qui sont abandonnées quasiment dans leur lit, sans qu'on s'en occupe, qui sont complètement déshydratées. Donc ça, on connaît bien ce type de maltraitance. C'est une maltraitance qui peut atteindre aussi les domaines psychologiques, dans la mesure où, si vous voulez, ça passe aussi par des insultes, etc. Bon, ça, c'est une maltraitance, je dirais, qui est apparente. C'est pas certainement la plus importante. Il y a ensuite ce qu'on appelle une micro-maltraitance, et c'est certainement celle-là sur laquelle il faut faire le plus d'efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que là, c'est une addition de petits dysfonctionnements qui, pris isolément, ne donnent pas l'impression d'avoir de l'importance, mais lorsqu'ils s'additionnent, ont une influence absolument catastrophique sur l'évolution de la santé des personnes âgées, puisque ça peut aboutir à la mort. Alors, ça peut être des sujets qu'on ne fait pas boire, et donc ils vont se déshydrater, qui ne sont pas capables de boire si on ne les aide pas, mais on ne les fait pas boire. Ce sont des personnes âgées qu'on va laisser macérer, eh ben, dans leur matière ou dans leurs urines, sans les changer, sans faire leur toilette correctement. Ce sont des toilettes qui sont faites à toute allure par des gens qui ne savent pas les faire. Ça existe, malheureusement. Ce sont des prothèses, par exemple, des prothèses dentaires qui sont perdues ou qui sont cassées. Des prothèses oculaires, des lunettes qui sont aussi perdues ou qui sont cassées. Des plateaux repas qui sont soit servis froids, soit qui sont posés sur des tables, par exemple, devant des personnes âgées qui sont incapables de manger par elles-mêmes. Ce sont des personnes âgées qu'on va faire manger trop vite parce qu'on est pressé et qui, vous savez, chez les personnes âgées, souvent, il y a des troubles, ce qu'on appelle la déglutition, il y a des difficultés à avaler, et donc ils vont faire ce qu'on appelle des fausses routes avec des conséquences catastrophiques. Ce sont des personnes qu'on ne va pas mobiliser si elles sont grabataires, par exemple, et donc ils vont faire des escarres. Alors, additionnez tout ça, et vous en arrivez à une maltraitance qui est ordinaire, mais qui a des conséquences extrêmement dramatiques.
Rien faire à ces personnes-là. Non, enlevez-moi là, ça. Elle pue. Bon.
Moi, je me suis vue prescrire à une dame en fin de vie d'un cancer du côlon. On m'a dit, sur cahier, mettez-lui un suppôt de doliprane 4 fois dans la nuit. Je sais pas si vous imaginez. Un suppositoire d'un antalgique simple pour quelqu'un en fin de vie avec métastasé. Vous imaginez. Et c'est même pas par la bouche qu'on me demande de le faire, c'est de le mettre par voie.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Ça va,
monsieur, merci. Vous également? Vous avez raison, il faut. Oui, vous avez bien mangé?
Il y a des familles qui ont la possibilité, qui viennent les visiter de temps en temps. Mais il y en a qui les déposent et qui ne reviennent plus.
Quand on a créé des maternités, on a des usines à bébés, on a des usines à vieux. Voilà.
On est avec eux, on connaît quand même plus ou moins leur situation familiale. Puis ils nous le disent, hein. Ben, j'ai des enfants, mais non, mais ben, je les vois plus. Alors ils passent pendant les vacances, ils passent par là, et puis ils arrivent, ils sont tout contents, on leur fait tout belle, tout beau, et puis c'est parti pour l'année prochaine. Et je peux pas dire que c'est la faute des enfants ou de la famille des frères et sœurs. Mais c'est les structures qu'il faut changer.
Ah ben, elle est petite, votre chambre.
Oui, moi, elle est petite, ta chambre. Enfin, je m'en contente, vous savez. Vous savez, avec Madame Linet, là, la dame que vous avez là, on est rentrés ensemble, on est du même parti, on a familiarisé ensemble. Vous savez, on se partage nos joies et nos peines. Oui. On se confie beaucoup de choses l'une à l'autre. Justement, vous savez, oh, j'ai peiné à m'habituer. Hein. Je vous dirais que j'y suis encore bien juste. Ben oui, parce que vous savez, ça fait un grand changement. Comment que je vous dis? On voit du monde, mais on est quand même privé de sa famille. Ils viennent quand ils peuvent. On est quand même privé de sa famille. Hein. C'est pas quand même pareil. Enfin, je sais que je peux plus être toute seule. Je peux plus toute seule. C'est la journée, ça va. Mais la nuit, c'est des nuits. Tout seul. Si on a besoin. C'est comme ça, c'est comme ça.
On va avoir le déjeuner dans une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est ça qu'il y a. C'est qu'on mange beaucoup. Trop tard le matin.
Vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner?
Ben non. Ben si tout le monde se transmet d'aller toucher à tout, ça va pas. Hein. Non, faut qu'il y ait un règlement pour tout le monde.
Les aides-soignantes, elles ont le temps en temps de venir passer avec vous, boire un petit café.
Ça, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, madame. Oh non, tu le savais. C'est pas sûr que ça se voit.
C'est pas sûr que?
Que ça existe un jour. Moi, je ne pense pas. À moins que ça s'améliore, mais... Que voulez-vous, elles sont pas nombreuses, hein, elles n'ont pas le temps, hein, elles ont beaucoup de beaucoup de travail, quoi. Ah oui, ah oui, ils n'ont pas le temps. Même qu'ils voudraient, ils ne l'ont pas. Pour dire, pour être juste, ils ne l'ont pas.
Comment va notre Simone ce matin?
Ça va, c'est que j'ai pris mon appui
là-dessus, non? Et on va se fatiguer là-dedans.
Oh, 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 c'est sa femme.
La femme de qui?
De ce monsieur-là.
Qui vous envoie une carte?
C'est une ancienne animatrice qui est partie en Boisse-Palais. On l'aimait beaucoup et elle nous aimait beaucoup. Mais voilà, c'est secret, il ne faut pas faire voir ça aux autres leaders, parce que tout le monde en a.
Ah, parce que tout le monde en a pas?
Non.
J'aurais bien voulu te prendre avec nous comme autrefois, mais Suzy m'a fait comprendre qu'on est un peu à l'étroit. Il faut être raisonnable, tu ne peux plus vivre ainsi. Sale, si tu tombais malade, on se ferait trop de soucis. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. Ton serin chante à tue-tête. Allons maman, calme-toi. Oui, le directeur accepte que tu le prennes avec toi. Il y a la télé dans ta chambre, en bas il y a un beau jardin, avec des roses en décembre qui fleurissent comme en juin. Tu verras, tu seras bien, tu verras, tu seras bien. Et puis, quand viendra dimanche, on ira faire un festin, je me pendrai à ta manche, comme quand j'étais gamin. Tu verras, pour les vacances, tous les deux on sortira. Là où l'on chante, où l'on danse, on ira où tu voudras. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien.
Le petit déjeuner.
Alors ça, c'est pour les gens qu'on fait manger. On prépare une mixture spéciale.
Pour les gens qui ont du mal à déglutir.
Voilà. Et je peux le prendre, celui-là?
Oui, oui. Qu'on est obligé de faire manger.
Alors, vous faites quoi, là?
Alors là, en fait, c'est des gens qui sont habitués à déjeuner avec du pain, du lait, du café. Donc là, en fait, on met tout là-dedans. On rajoute le lait, le café, un petit coup de mixeur. On rajoute du sucre, le beurre, comme s'ils avaient un plateau, en fait, de petit déjeuner normal. Donc, en général, sur un plateau, ils ont 4 tartines de pain, 2 beurre, 3 sucres, une confiture. Donc là, c'est ce que je vais mettre pour 4 personnes. Donc, je remets tout en... Voilà.
C'est un nom, ça?
Non, nous, on appelle ça notre mixture, mais je pense pas que ce soit comme ça. Voilà, là, je vais rajouter du café. Alors, c'est vrai qu'à voir, ça peut paraître un peu ragoûtant.
Et pour le midi, les gens qui peuvent pas manger, ils se mixent comme ça aussi?
Voilà, ils ont exactement le même repas que les gens qui vont pouvoir manger seuls. Mais par contre, ça va être mouliné ou mixé. Alors par contre, les bouillies, on les utilise les week-ends. Bah, on leur donne des petites blédinas, là, comme les enfants. Vu qu'on n'est que 3 pour 33 résidents, voilà, on n'a pas le temps de faire tout ça. Ouais, c'est... Les gens, ils s'ennuient beaucoup aussi. Alors on essaie de leur trouver des occupations. Il y en a qui nous plient du linge aussi. Alors, ils se sentent utiles, c'est vrai. On a une petite grand-mère aussi qui va nous acheter notre pain, des fois. Elle vient nous voir, vous allez la voir tout à l'heure. Vous avez besoin de quelque chose? Alors, bon, ben, des fois, on l'envoie acheter la baguette. Nous, ça nous évite d'y aller en débauchant. Et puis, elle est ravie parce qu'elle nous rend service. Le problème, c'est qu'on ne peut même plus les revaloriser par rapport à ça, parce que nous, on n'a déjà pas de temps à passer avec eux. Donc, ben, on perd un peu ce côté-là pour les revaloriser, leur faire voir qu'ils existent, tout simplement. Parce que là, des fois, on a l'impression que c'est un peu des objets quoi, qu'on a mis là, après la toilette, et qu'on attend de venir chercher. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, c'était le résident qui était prioritaire. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est à côté. Enfin, nous, on a tendance à dire le bling-bling, quoi. Essayer de épater les gens, la chambre est propre, le lit est bien fait. Mais le bien-être du résident, je crois qu'on en est loin. C'est la course.
Bonjour. On va manger. Hein? On va se relever.
Il parle pas ?
Là, il a fait un AVC il y a 4 ans. Et depuis, il parle pas, là, il y a pas. Mais il se fait bien comprendre quand même. Quand il veut quelque chose, il sait bien se faire comprendre. Mais bon. C'est un monsieur qu'on fait la toilette après, ça. Ce foyer 2, c'est des grosses toilettes quand même. Parce qu'on a des lèvres malades, mais la plupart ne rentrent pas dans les cabinets de toilette. Ou alors dans la chambre, il y a trop de choses, on ne peut pas s'en servir. Alors, on est souvent à soulever à bras, quoi. C'est un monsieur qui mange mouliné, mixé. C'est pas bon ? Ah, il n'aime pas. C'est bon ça? Un yaourt?
Ouais.
Alors, je vais vous donner un peu si vous voulez.
Oui, avant de bien moi qu'elle a dit. On est récitant là, nous tous là.
Et vous allez faire les commissions?
Oui, les commissions. À l'infirmière, je ferai plus tard parce qu'on vient au marché. Alors, j'ai ravi de Jean-Claude.
Et cette dame-là a rencontré quelqu'un ici?
Oui, oui.
Ah bon?
Oui,
Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Oui, oui. On a fait fiançailles ici. Et Françoise aussi, elle l'a fait. François. Mais elle a perdu Marcel, c'est Thomas. Il était bien.
Et avant d'être ici, vous habitiez où?
En bois, chez les sœurs, là. Rue Rabelais.
Chez les sœurs?
Oui. On faisait le ménage, faisait la vaisselle.
Qu'est-ce qui vous a plu chez Jean-Claude?
Oh ben, c'est moi qui a voulu.
C'est vous?
C'est son sang qui avait pas vu. Et puis, il était content.
C'est vrai?
Ah oui, oh, ben, il était ravi, hein. Il est toujours content, oui. Que j'ai fait bien là. Je mets mon manteau, nos cheveux cotons. Puis j'ai un gilet au but, ça va aller. Et puis j'ai mis mes bas. Nous aussi, on va en bas.
On va au jardin.
Vous allez faire vos courses aussi, madame?
Oh ben, j'entends pas, moi, là.
Vous allez faire vos courses aussi?
Oui.
Oui.
À bien pour voir, comme ça,
oui,
pour les commissions.
Oui, mais j'entends pas.
Attends, vous m'attendez, je vais emmener ça.
Vous allez emmener ça où?
Eh ben, parce que je vais pas emmener ça là-bas. Ben, oui. Ben, venez, vous verrez ma chambre, comme ça. Si vous venez là, c'est pour voir, comme ça.
Ça, c'est là où
là,
vous déjeunez?
Et puis, et tantôt, on a une fête, tantôt. Halloween. C'est pas ça qu'on dit, ou Halloween. Halloween, eh ben, c'est ça. Et puis, ce matin, dans les petits sacs, on va remplir. Tu vois, si tu veux venir avec nous, je vais avec toi.
Bonjour, monsieur.
Madame.
Ah, oui. Tiens, viens, Jean-Claude. On va voir ma chambre. Il va me la garder, Jean-Claude. Et ma sœur de l'autre côté.
Oui, votre sœur?
Oui, oui.
Elle est ici aussi?
Oui.
Ah, vous êtes en famille, alors?
Ah oui.
Et c'est votre fiancé?
Oui.
Vous êtes rencontrés ici, tous les deux?
Tous les deux, oui.
Tu veux venir avec nous, Jean-Claude? À distraire, non?
Je sens que j'ai trop pu maîtriser et
mais j'étais dans ton
sac. Ah, m'a fait tomber le sac.
La sanglée, il y avait la sanglée.
Oui, pas c'est trop humain.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Ah, nous, ça va faire. Ah, bah, ça fait 9 ans, Zozo, ça va faire.
Attends, on va y aller.
Non, mais mettons bien, ah, ça fait
8
ans. 9 ans, 9 ans. Ouais, bon, on va y aller.
Il y en a qui disent que c'est pas bon. Il y a toujours quelque chose. Mais non.
Ici, vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez le chambre.
Il y a 8 chambres. Bon, on va y aller. Je vais pour Valérie, on va y aller.
Allez.
Tout à l'heure.
Alors, vous avez fait connaissance avec Josette. Elle a parlé de Jean-Claude. Oui, et comment? Et vous êtes impatient de faire connaissance avec Jean-Claude. Eh bien, le voilà.
Vous avez rempli?
Oui, il n'y a plus qu'à vous attacher. Alors.
C'est pour mettre dans le linge?
Non, ça, oui, mais ça sera pour le marché de Noël.
Et on les voit, le marché de Noël.
Pour faire un peu de sous?
Un peu de sous, oui.
Et ça fait combien de temps vous êtes ici?
Ça fait 7 ans, là. Avant, j'étais chez moi. Hein. Mais vu que ma santé, là, mon Saint-Tan, c'est lui qui m'a mis ici. Mon Saint-Tan, qui m'a mis là. Chez moi, je ne marchais plus. Hein. Je fais que tomber avec l'épilepsie, et puis je ne mangeais plus, puis... Quand il prenait des cas d'épilepsie, jusqu'à me rouler par terre. Quand mon Satan, il a vu ça, allez, on t'embarque. Hein. Et il m'a sauvé de la misère, quoi. Ben, ici, je fais tout, je fais les vaisselles et tout. Hein.
Il vous donne un peu de sous en échange?
Ah oui, un petit picule, ah oui.
Et avant, qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Les cultivateurs, dans les vignes. Je travaillais chez monsieur et madame Chénier. Château d'Arroche. Je suis au château de Posset. D'abord, avant, j'habitais à Posset.
Et vous étiez marié avant?
Ah non.
Non.
Tu sais, avant, j'avais. Les agences, on m'a escroqué. On m'a escroqué 1 million, comme escroqué. 1 million, comme escroqué. Pour avoir quelqu'un. Ah. En fin de compte, les semaines passées, en fin de compte, tiens, rien vu.
Ah, vous étiez passé par une agence?
Une agence, oui. Puis après, j'ai depuis ce temps-là, terminé. Mais quand j'ai fait 2 fois, mais pas 3. Puis c'est là que j'ai rencontré. Ici, oui. Là, oui. Puis avant, je ne croyais pas. Hein. Enfin, j'étais prêt à me suicider. Ça. J'ai que du boulot comme ça, j'étais prêt à me faire mes jours. Hein. Mais toi, du petit temps, j'ai fait connaissance. Il ne m'en plaît pas. Alors, on a fini en fiançailles le 7 novembre 2002. Qu'on a fini en fiançailles. On a fait là, dans le milieu, là. Puis les fleurs étaient là. Dans le coin, là. On a une belle fleur, oui, comme ça. Ah oui. Puis ça, c'est ma belle-sœur. C'est Gisèle, c'est ma belle-sœur.
Vous passez le balai, vous?
Oui, oui. On n'a pas à se plaindre. On est content, on est tout ensemble ici. Puis avec les personnes qu'on est. Ah oui. Voilà.
Merci à toute l'équipe des soignantes et soignants et aux résidentes et résidents du Grand Mail à Amboise. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci au professeur Jacques Chouberan, à Claude Évry, à Bruno Fergu du syndicat Sud Santé Sociaux. Demain, tout à fait autre chose, rassemblement pour soutenir les journalistes emprisonnés en Tunisie, Taoufik Benbrick, notre ami Taoufik Benbrick, Zouer Maklouf. Ce sera place de l'Opéra à Paris à 18h. Puis, ensuite, toujours pour la liberté de la presse en Tunisie et au Maroc, il y aura ce 18 novembre, une soirée de solidarité à la mairie du 2e arrondissement de Paris à partir de 19h30 à la mairie du 2e arrondissement de Paris. J'y serai, venez nombreux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Aurélie Fortin, Koy Nguyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission. Assistés d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto, attend vos messages. Au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Ici, chez TGV, pour faire mincir nos prix, on les laisse transpirer plusieurs jours dans des boîtes à vapeur.
Oh, mais ça va pas, non ?
Si, et vous me remercierez avec 60% en moins.
Oh, on voit bien que c'est pas toi qui me quitte. Mais ça va pas !
Les tarifs TGV Proms n'ont jamais été aussi minces. Profitez de billets à moins 40, moins 50 ou moins 60% jusqu'au 8 décembre. TGV, plus de vie dans votre vie.
Offre soumise à conditions, également disponible sur Théos, Lunéa et Intercité.
SNCF.
En direct de l'Hippodrome avec notre grand favori, alors heureux de fêter les 20 ans du Quintet Plus.
Super anniversaire et encore plus pour les parieurs, il y a 500 000 euros en plus par jour à la tirelire du Quintet Plus. Ça motive encore plus.
Du 14 au 22 novembre, le PMU vous en donne encore plus. La tirelire du Quintet Plus augmente chaque jour de 500 000 euros. Alors rendez-vous vite dans votre point de vente PMU. Montant à partager entre les gagnants du rapport ordre ayant le numéro plus gagnant. PMU.
On parie que vous allez gagner.
Amstram, Gram. Perdu, monsieur Duchamp. Désolé, mais ce n'est pas encore cette année que la recherche pourra s'occuper de votre maladie. Suivant! Amstram, Gram, pique, collégram.
Toutes les maladies méritent une vraie place. Fondation pour la recherche médicale. Donnez pour que la recherche bénéficie à tous les malades. Appelez le 3620 et dites Fondation.
15 centimes la minute à partir d'un poste fixe.
Profitez de la semaine des avocats et du droit pour poser vos questions au 0810 313 313. Un avocat va vous répondre.
De 9h à 18h, prix d'un appel local à partir d'un poste fixe. Tous les détails sur avocat.fr. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un avocat.
France Inter présente Rapt, un film de Luc Abelvaux avec Yvan Attal et Anne Consigny au cinéma le 18 novembre. Stanislas Graff, un grand patron, est enlevé contre rançon. Les médias dévoilent les sommes qu'il jouait, ses maîtresses. Sa femme doit faire face.
On va payer.
Sa libération sera plus difficile que sa captivité.
Qui m'a demandé si j'avais eu peur ?
Retrouvez Luc Abelvaux dans L'Humeur Vagabonde, aujourd'hui à 20h.
On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Il est 16h et quelques secondes sur Inter. Les infos, Angélique Bouin, salut.
La prise d'otage à la prison de Clairvaux dans l'Aube se poursuit. Le détenu qui détient un surveillant est muni d'une arme blanche. Il aurait tenté de s'évader alors qu'il se trouvait dans l'atelier de la prison. Évasion ratée donc. Il s'agit d'un homme considéré comme dangereux. Il a été condamné pour homicide volontaire après avoir égorgé l'un de ses co-détenus à Nancy en 2002. Il est libérable en 2032. Le GIGN est attendu sur place. Il est en garde à vue depuis plusieurs heures. Tony Muselin a reconnu être l'auteur du vol de Lyon. C'est bien lui qui a détourné les 11 600 000 euros que transportait son fourgon. Mais il n'explique pas son geste, selon Jean-François Baraldi, le vice-procureur de la ville. Il n'a fourni également aucune indication sur son itinéraire. La cavale du convoyeur s'est terminée hier après qu'il se soit rendu dans un commissariat de Monaco. François Fillon doit prendre la parole d'ici une demi-heure environ devant les quelques 11 000 maires de France réunis en congrès, porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous difficile pour le Premier ministre qui pourrait affronter une salle très hostile, très opposée aux réformes, celle notamment qui concerne le volet fiscal de la réorganisation territoriale. Martine Aubry, maire de Lille et patronne du Parti Socialiste, est arrivée tout à l'heure en distribuant des autocollants sur lesquels on lit « Territoire en danger », une initiative de son parti pour mobiliser les élus contre les projets du gouvernement. Il n'y aura pas de chèque contraception pour les lycéennes de la région Poitou-Charentes. La recteure de l'Académie de Poitiers s'y oppose. Béatrice Cormier indique qu'elle considère que ce dispositif n'est pas sûr juridiquement. Elle l'a dit sur France 3 régionale. L'idée de ces chèques a été lancée par la présidente de région, Ségolène Royal, pour aider les mineurs à financer notamment leur traitement contraceptif. Le mouvement de grève des salariés sans papier touche 1800 entreprises dans 38 départements. Plus de 5500 étrangers sont entrés dans ce mouvement. Selon la CGT, la CFDT, Sud et FSU, les quatre syndicats sont engagés actuellement dans des discussions avec le ministre de l'Immigration. Ils réclament la régularisation de ces salariés. Mais en appel aujourd'hui à Xavier Darcos, le ministre du Travail, sur plusieurs points, ces services sont concernés et doivent rejoindre les négociations, estiment les syndicats dans un communiqué. L'épidémie de grippe A s'étend en France, notamment dans le milieu scolaire. 51 établissements fermés aujourd'hui. 16 académies sont touchées selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation. Depuis vendredi, le nombre d'établissements fermés a été multiplié par 5. Le plan de lutte contre l'épidémie prévoit des fermetures de 6 jours consécutifs pour tenter d'enrayer la propagation du virus quand trop de cas touchent une même école. C'est officiel, les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à la construction de 900 nouveaux logements dans la partie est de Jérusalem, une mesure qui ne va pas favoriser la reprise des négociations de paix.
Dans le prochain enregistrement du Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Ludovico Einaudi, Roberto Fonseca et Aufgang.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter et les Arts Émouvants présentent L'Homme qui rit de Victor Hugo, mise en scène et interprétée par Laurent Chu, du 18 novembre au 20 décembre au théâtre Daniel Serrano, métro Château de Vincennes. D'un monstre à l'âme lumineuse, Laurent Chu prend Hugo à bras-le-corps. Un spectacle incisif et bouleversant qui nous renvoie à nous-mêmes, individus et sociétés. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter présente Miles Davis. À l'occasion de l'exposition We Want Miles à la Cité de la Musique, découvrez dans un luxueux coffret l'intégrale des œuvres enregistrées par le génial trompettiste entre 1955 et 1985. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Il est 16h04, on poursuit l'après-midi en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui même le 50e anniversaire de la disparition d'Heitor Villa-Lobos, compositeur brésilien né en 1887 et mort donc en 1959. Le père du compositeur, Raoul, était d'origine espagnole et il faisait autorité en matière d'histoire et c'était un mélomane fervent et énergique même. Et il a appris quelques instruments à son fils, mais la maman n'était pas d'accord. Noémia, qui était une indienne d'Amazonie, à ce qu'on dit, trouvait que ça n'était pas un métier tout à fait convenable d'être musicien, ça c'est pas la première fois bien sûr, et elle voulait que Heitor soit médecin, donc elle a rapidement confisqué toutes ses affaires de musique, nous raconte le compositeur. Il avait commencé à jouer un peu de piano à l'âge de 3 ans et il s'est réfugié dans une chambre un peu lointaine avec une guitare. Il a appris tout seul à jouer de cet instrument et cette guitare évidemment lui est restée chère toute sa vie, même s'il avait aussi travaillé dans un certain désordre le piano, la clarinette, le violoncelle qu'il a joué assez proprement. Mais voici cette guitare pour commencer l'émission avec un prélude en mi mineur. Il l'avait montré à Andrés Segovia, le fantastique guitariste, et celui-ci avait dit « mais c'est injouable ». Et l'autre, Villa-Lobos, lui a dit « mais moi j'ai jamais appris la guitare, j'y arrive quand même ». Et Segovia a dit « oui, mais c'est pas la technique normale de la guitare, c'est pas la technique traditionnelle ». Et le compositeur a dit « mais quelle importance ça peut avoir ».